Chapitre 7 La Belle au bois dormant. La lune en son plein répandait dans une nuit molle et tiède sa calme lumière pure et comme phosphorescente. Au silence de la campagne sommeillante se mêlaient mille bruits furtifs, mille frémissements de vie montant de la terre, s'envolant des arbres où de temps à autre passaient dans les branches le vol ouaté d'un oiseau nocturne. Le chuchotement d'une lointaine chute d'eau égrenait son harmonie cristalline. La nuit sereine berçait le repos des deux amants étendus côte à côte sous la tente. Parfois Horace, dans un demi-sommeil, étendait la main et touchait le bras de sa compagne immobile afin de s'assurer qu'elle était bien là, qu'il ne rêvait pas, car les circonstances lui paraissaient si étranges qu'il doutait de leur réalité. Enfin, ce fut l'aube. Les premiers rayons du soleil brillèrent entre les interstices des vélums. Horace se dressa à demi et une fois de plus se posa la main sur une main abandonnée près de lui. Mais il sursauta, frémissant, effaré. La main qu'il touchait était froide, très froide, glacée. Horace se pencha, épouvanté, vers la forme gisante immobile sur la couche, à la faible clarté traînant sous la tente. Il vit que le visage était recouvert d'un voile de gaze légère et que dans la poitrine, à demi nu, sous le sein gauche, un poignard était planté. Crispé par l'horreur, il se pencha davantage, colla son oreille sur la peau glacée. On n'entendait plus les battements du cœur. Ainsi, comme on passe de la veille au sommeil, avait-elle passé de la vie à la mort, une mort si foudroyante que la blessure fatale ne l'avait qu'à peine fait tressaillir dans les bras de son amant, qui ne s'en était pas aperçu. Horace bondit vers la tente voisine. Maffiano et ses hommes n'y étaient plus. Sans perdre de temps, il courut jusqu'à Maison Rouge chercher de l'assistance. Dans le vestibule de la maison, il rencontra Victoire qui sortait pour une inspection matinale. « Ils l'ont tué !» lui dit-il, les larmes aux yeux. Victoire demanda naïvement « Et elle est morte ?» Il la regarda interloqué. « Oui, elle est morte !» La vieille nourrice haussa les épaules. « Pas possible ! Mais puisque je te le dis, un couteau en plein cœur !»« Et moi, je te dis, pas possible !»« Mais pourquoi ? Comment ? Mais qu'est-ce que cela signifie ? Tu as une preuve ?»« Ben, cela signifie que je suis sûr qu'elle n'est pas morte !» Et une intuition de femme, tu sais, ça vaut toutes les preuves. Et que me conseille ton intuition de femme ? Ben de retourner là-bas, de soigner la blessée, de ne pas la quitter, pour la défendre si on attaque de nouveau. Elle s'interrompit, un coup de sifflet strident vibrait quelque part dans le parc. Rasvelmont sursauta stupéfait. « Et qu'est-ce que cela signifie, le signal de Patricia ?»« Alors, tout va bien !» s'écria Victoire triomphante. « Tu vois bien qu'elle n'est pas morte et qu'elle a échappé à Maffiano et à ses complices !» Transfiguré par la joie, Horace se pencha vers la fenêtre ouverte et prêta l'oreille. Au même instant, un rugissement de bête fauve, ample et rauque, se fit entendre, roula dans l'espace, se prolongea et s'éteignit. La vieille nourrice instinctivement se signa comme si elle eût fait pour le tonnerre. « Oh, c'est la tigresse » dit-elle. « Ouais, oh, on m'a raconté hier qu'une tigresse s'est échappée il y a quelques jours d'une ménagerie ambulante et s'est réfugiée dans ce qu'ils appellent par ici la forêt vierge du château des Corneilles. On a fait une battue, elle a été blessée, ce qui la rend furieuse et plus dangereuse. » « Ah, si elle rencontre Patricia !» Horace sauta par la fenêtre et courut vers la vieille chapelle où se trouvait l'entrée du souterrain. Il le parcourut à toute vitesse et quand il en déboucha, il entendit du côté du promontoire des cris de femmes et des coups de sifflet répétés, mêlés au rugissement du fauve. Un nouveau rugissement, mais plus proche. La bête venait vers Maison Rouge. Velmont, traversant en courant les prairies voisines du promontoire, s'élança vers les tentes et fut stupéfait de les trouver abattues. Ce n'était plus qu'un amoncellement de toiles, de piquets, de sièges, comme si un cataclysme eût passé par là. Cependant, sur le fleuve proche, Horace distingua une barque qui, sans bruit, glissait en s'éloignant. Trois hommes la montaient et qu'il reconnut du premier coup d'œil. « Eh, Baffiano ! » cria-t-il. « Qu'as-tu fait de Patricia ? Tu l'as frappée, assassin, à vous ! Est-elle morte ? Où est-elle ? » L'homme en barque haussa les épaules. « J'en sais rien, cherche-la. Elle était encore vivante, mais la tigresse nous a assaillis et a jeté bas notre installation, et je crois bien que Patricia a été emportée par elle. On cherche-la, ça te regarde. » Et la barque disparut sur le fleuve. Horace, dominant son angoisse, écouta, regarda. Il ne vit rien, n'entendit plus de coups de sifflet, plus de rugissements. Partout un calme qui lui parut sinistre. Alors, suivant le conseil du bandit, il chercha. À quelque distance s'étendaient en masse sombre les bois qui entouraient le château des Corneilles. Il y entra par une brèche du mur. Les arbres étaient clairsemés. Tout d'abord, la forêt vierge, lui avait-on dit, ne commençant qu'à une certaine distance des alentours immédiats du château. Un nouveau rugissement s'éleva à 200 mètres au plus. Velmont s'arrêta, inquiet, malgré son courage. Sans aucun doute, la bête l'ayant flairé accourait à sa rencontre. Il réfléchit rapidement. Que pouvait-il faire ? Il n'avait pour se défendre qu'un revolver de petit calibre. Du reste, comment viser si la tigresse surgissait soudain de l'épaisseur du taillis ? Des bruits de feuilles foulées et de branchages froissés, de plus en plus près. La bête approchait. Il entendit son feulement sourd, son souffle rageur, sans pouvoir la distinguer. Mais elle le voyait sûrement, elle, et s'apprêtait à bondir sur sa proie. Horace s'élança avec une agilité d'acrobate. Il s'accrocha d'un coup à une branche d'arbre assez haute et se rétablit sur ses poignets. Il sentit, non pas un croc, mais le choc puissant d'un mufle chaud qui heurtait sa jambe. Il se dressa sur sa branche, réussit à saisir une autre branche plus élevée, et ainsi il grimpa aisément jusqu'à une hauteur inaccessible. La tigresse, après son premier assaut infructueux, ne tenta pas de nouvelles attaques. Bientôt Horace la devina qui partait, trottinant vers la forêt, et il l'entendit grogner de colère. Puis il y eut encore un rugissement, puis des craquements sourds d'eau broyée. Horace frissonna d'horreur. La bête avait-elle vraiment surpris Patricia sous la tente, et était-ce vers son corps déchiqueté qu'elle était retournée? Si cela était, il aurait beau exposer sa vie, la morte ne pouvait plus être secourue. Impuissant, malade des mois, rongé d'angoisse, il attendit 2 heures avant de descendre de son arbre. Attente interminable et si cruelle que soudain il n'eut plus la force de la supporter. Au mépris du danger, il se laissa glisser de branche en branche et son revolver à la main s'enfonça dans le taillis. Il eut même l'audace de gagner la lisière plus dense de la forêt qu'il explora. Mais il ne trouva rien malgré ses investigations. Des vols de corbeaux s'abattaient dans les clairières et devant lui couraient et s'enfuyaient tous les petits fauves des bois. Mais de la tigresse, nulle trace. Il chercha longtemps, en vain, las et désespéré, harcelé par les moustiques, accablé par la chaleur immobile et oppressante, accru vers la fin du jour par une menace d'orage. Épuisé, enfin, il regagna Maison Rouge, comme les premiers éclairs déchiraient l'horizon, suivi de la voix solennelle de la foudre. Il ne dîna pas. Les nerfs un peu calmés par le ruissellement de la pluie, il s'étendit sur son lit. Mais ce fut inutilement qu'il essaya de dormir. Son cerveau enfiévré évoquait chaque instant de la nuit où il avait tenu dans ses bras sa bien-aimée Patricia. Il imaginait ce qui s'était produit durant son sommeil. L'assassin se glissant dans l'ombre à tâtons, son poignard à la main et frappant Patricia, sans soupçonner sa présence à lui, Horace Velmont. Et peut-être Patricia avait-elle eu ce suprême courage de ne pas faire un geste qui pût détourner vers lui le danger. Elle l'avait sauvé en mourant. Comme elle l'avait aimé. Mais il y avait autre chose. La situation était trouble, inexplicable. Que signifiait ce coup de sifflet, cet appel évident lancé par Patricia? Pour appeler, il fallait qu'elle fût vivante. Et Horace espérait. Oui, il y avait vraiment là des éléments incompréhensibles qui permettaient un certain espoir. L'orage redoublait, et dans le fracas des coups de tonnerre qui ébranlaient l'espace, tout à coup les trois chiens de garde se mirent à hurler en sinistre concert de folie. Ils durent rompre leurs chaînes, car Horace les entendit galoper comme des bêtes en délire à travers le parc, se poursuivre entre eux et poursuivre on ne sait quel fantôme déchaîné à travers les arbres, les buissons et jusque dans la cour de la ferme. C'était un vacarme de cauchemar, un tumulte fou, mystérieux et tragique. On eût dit que le camp retranché que formait le domaine était attaqué par des hordes de cavaliers barbares qui fonçaient sabre au poing parmi la ligne des défenseurs. Horace Velmont s'hallucinait dans l'ombre nocturne, il les devinait. Il les voyait, brandissant des lames et des torches, donnant la mort et allumant l'incendie. Et toujours ces aboiements furieux, ces cris frénétiques auxquels se mêlait parfois la plainte effarée de la proie pourchassée, et puis là-bas, le rugissement rageur de la tigresse. Horace appela les chefs des escouades de défenseurs. Ils veillaient, mais eux non plus ne comprenaient rien à ce qui se passait. Rien. Ils avaient tenté une sortie, mais dans la nuit noire et sous la pluie diluvienne, n'avaient pu aller loin et du reste n'avaient rien vu. Et un vent de folie continuait à balayer les jardins, évoquant dans sa véhémence insolite le maléfique passage du chasseur damné des anciennes légendes. L'aube calma peu à peu la tourmente. Les chiens bondissaient encore par élan désordonné comme impulsif. L'orage s'était apaisé. Les averses denses s'étaient atténuées en une pluie hésitante et délicate qui semblait avoir pour mission d'arroser le champ de bataille. Et le jour s'affirma, dissipant les cauchemars, pacifiant les gens et les bêtes. Les chiens grondaient encore, mais sans conviction, en quelque sorte avec réserve, inquiets sur la distribution inévitable de coups de fouet qui suivraient leur démence de la nuit. Elle leur fut faite généreusement par le maître lui-même, qui passa sur eux ses nerfs exaspérés. « Et tout ça, pourquoi » disait-il. « Mais pour quel monstre antédiluvien, pour quel dragon volant, pour quelle chimère apocalyptique ? Big, que vois-je ? » C'était un caniche agonisant, à la tête écrasée, au ventre béant, dont les pattes encore tressaillantes comme des branches au souffle du vent, s'embarrassaient dans le chevau livide des intestins dévidés. Lupin saisit le petit cadavre par les oreilles et, le brandissant comme un trophée, le montra à ses hommes en s'écriant « Tenez, regardez, voilà la bête fauve qu'ils ont forcée dans leur chasse à cours !» L'un des hommes examine la bête noire, morte, et déclare « Ben, sapristi, c'est le cabot à la belle au bois dormant !»« Quoi, la belle au bois dormant? Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ben oui, la dame qui dort depuis un siècle, dans le château abandonné. » »« Mais quel château ?»« Ben, le château des Corneilles, là, dans le bois, après le promontoire. » Il y a une dame qui dort depuis un siècle, mais tu dérailles, c'est un conte de fées. Bon, sérieux, paraît qu'il y a une dame qui dort. Tu la connais? Oh, personne ne la connaît, mais j'ai interrogé les gens du village qui m'ont dit ça. On en parle beaucoup dans la région. Et qu'est-ce qu'on raconte? Oh, que son grand-père, au temps de la Révolution, a participé à la condamnation de Louis XVI et de la famille royale. Alors, en expiation, elle a vécu 10 ans à genoux, devant le calvaire aux Corneilles, et depuis elle dort. Seule dans ce château? Oui, seule. Pourtant, elle mange, elle boit. On ne sait pas. Elle se promène? Quelquefois, elle va au village, mais ceux qui l'ont rencontrée savent très bien qu'elle ne se réveille pas, et qu'elle dort en marchant, tout en ayant les yeux ouverts, des yeux comme ceux des somnambules, qui regarde sans voir. Moi, je ne l'ai pas rencontré, mais la chose est certaine. Horace Velmont demeurait pensif, il conclut. J'irai tantôt m'excuser auprès d'elle de la mort de son pauvre caniche. Où est-il exactement le château? Bon, ce château est une baraque, tout en ruine, réparée avec des planches, entourée d'un bois qu'on appelle la forêt vierge. Et elle n'y reçoit personne, tout en dormant. C'est très rare. Pourtant, ce qui paraît, l'autre jour, un dompteur avec un huissier sont venus réclamer une tigresse échappée d'une ménagerie foraine. On l'avait cherchée partout. On avait fait des battues avec tous les chasseurs du pays. Finalement, on a su qu'elle avait été vue dans les bois des Corneilles, mais la dame qui dort a répondu à l'huissier « Oui, elle est recueillie, blessée par une balle furieuse, elle est dans ma forêt. » Guérie, mais toujours furieuse. Allez la prendre. Oh, l'huissier court encore. L'après-midi, Velmont fit mettre le cadavre du caniche dans une bourriche de paille et, l'emportant, s'enfuit vers le promontoire, puis vers les grands bois de la colline. Un chemin boueux et plein d'ornières montait vers les douves comblées que surplombait la terrasse d'une barbacane à demi couverte de bois taillis et de chênes. Après quoi, au bout d'une pelouse verte, où se dressait un vieux calvaire rongé par les siècles, moutonnaient des flots de lierre, sous lesquels on pouvait discerner les lignes confuses d'une construction aux trois quarts écoulée, et dont les pierres avaient roulé au loin par blocs, à présent enchaînées eux aussi par le lierre et feutrées par la mousse. Un signe pourtant d'existence et d'hostilité pour les visiteurs. De tous côtés se dressaient des poteaux avec des inscriptions peintes en blanc sur le noir du tableau. Propriété particulière, entrée interdite, chien dangereux, piège à loup. Aucune porte visible, aucune entrée apparente. Parmi les ronces, on accédait à une fenêtre par des vestiges de marches moussues. À l'intérieur, rien que des salles désertes, sans plafond, avec comme parquet l'herbe, les plantes vivaces et les flaques de boue. Un sentier, si l'on peut dire, serpentait à travers les ruines. Ainsi parvint Horace à une longue baraque goudronnée, planté au milieu d'une salle et qui lui parut le seul lieu habitable. Il ouvrit la porte et appela « Y a-t-il quelqu'un ?» À l'arrière de la baraque, il y eut un bruit de porte qui se referme en claquant. Il se dirigea de ce côté et traversa une pièce étroite où il y avait un lit de camp et pénétra dans une cuisine où, sur une table de bois, Sur une lampe à alcool, des pommes de terre bouillaient dans l'eau d'une casserole à côté d'une écuelle de lait. La belle au bois dormant, surprise par l'intrus, avait pris la fuite, laissant là son repas. Horace voulut poursuivre son chemin, mais s'arrêta net. En face de lui, à deux pas, le mufle d'un fauve lui barrait le passage.